À Boutin-Rivière, 9h40 à Paris.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité, la libre antenne, vos réactions sur l'actualité de votre choix. Et vous êtes, je vous le disais tout à l'heure, nombreux ce matin à réagir à l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. Sa mort suscite une très vive émotion au Cameroun, surtout à Yaoundé où son émission était très très suivie, émission dans laquelle il dénonçait tous les jours, du lundi au vendredi, des affaires de corruption, des affaires de détournement de fonds public. J'ai énormément de commentaires sous les yeux. Il y a par exemple Abdoulaye qui nous dit « C'est un assassinat ignoble et crapuleux. Cela prouve une fois de plus la régression de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. » Sally nous a écrit de Douala « Justice pour Martinez Zogo. Son assassinat a vraiment choqué l'opinion camerounaise. J'aimerais, nous dit Sally, j'aimerais que la presse camerounaise lance une journée presse morte sur toute l'étendue du territoire national pour vraiment protester. Bonjour Bertrand.
Bonjour Juan et bonjour auditeurs de RFI.
Vous souhaitiez rendre hommage à Martinez Zogo.
Oui Juan, je voudrais rendre hommage à Martinez Zogo comme un fils d'abord du Cameroun et pas comme une personnalité d'une représentativité de par exemple de la presse ou d'autres entités, parce que c'est un Camerounais qui a été tué. Et il faut le comprendre ainsi et se dire que cette situation constitue une menace non seulement vis-à-vis d'une profession, mais vis-à-vis de tous les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ne se sentent pas en sécurité avec ce qui se passe. Et c'est de ça qu'il est question. Et c'est ainsi que nous devons aborder la question pour poser le problème de fond sur la table et amener toutes les forces vives de la nation à se réunir et à trouver des solutions pour sortir de cette situation qui ne grandit pas l'image du Cameroun, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de notre nation.
Les autorités ont qualifié cet assassinat de crime odieux, inqualifiable et inadmissible, et qui ne peut se justifier sous aucun prétexte. Le gouvernement a promis de faire la lumière sur ce crime, Bertrand.
Ils ont tout intérêt à faire la lumière, Juan, parce que, quel que soit ce qu'on puisse dire, ça ne sert pas à ce gouvernement. Ça prouve simplement ce qui s'est passé, que ce gouvernement est arrivé aujourd'hui à bout de souffle. Que l'on puisse tuer un fils d'une nation de la sorte, ça veut dire que le gouvernement doit se remettre en cause dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir et de trouver des voies et mesures pour assurer les Camerounais qui leur ont donné la destinée de la nation entre leurs mains.
Réaction du syndicat national des journalistes du Cameroun, assassinat odieux aux conséquences qui restreignent encore plus la liberté et la sécurité au Cameroun. Ne raccrochez pas Bertrand, je vous présente Polycarpe, il est à Yaoundé. Bonjour Polycarpe.
Bonjour, bonjour Johan, bonjour à tous ceux qui sont dans la détresse en ce moment pour le cas de l'assassinat cruel de notre frère Martinez Zogo.
Oui, vous disiez au Standard être ébranlé, choqué par cet assassinat.
Oui, oui, je suis très ébranlé. Je traverse le moment où les écrivains, les poètes, les dramaturges ne peuvent décrire à l'heure du moment. Je cherche où trouver les forces. Pourquoi? Parce que Martinez Zogo était un bon journaliste, une exception professionnelle dans le journalisme camerounais actuellement. Il a dédié toute sa vie à la protection de la démocratie. Qui, mieux que lui, a donné une visibilité à la vie publique et son fonctionnement et ses dérives? Celle des terroirs, celle qui fait produire des rêves pour le changement. Martinez Zogo était un média. Il était un Malcolm X. Il était un Luther King. Il était un Dulcis September, tous assassinés pour le bien commun. J'affirme même qu'il voulait tutoyer même Edward Snowden. Et pour faire un Martinez Zogo et en avoir un autre aujourd'hui, il faut 20, 25 ans. Ça prendra du temps. Ce n'est pas pour maintenant. Et vous nous laisse comme ça les modes de l'asticot. Voilà. Pour moi, c'est le debout, le purin et la cadavérine, des odeurs d'eau crédit. On n'entend plus sa voix, la voix caverneuse et rocailleuse. On ne devine plus la sueur de ses luttes à présent dans nos pensées. C'est sa phalange arrachée. Ce sont ses orifices profanés. C'est son crâne scalpé. Ah, un humble serviteur qui retourne à la terre.
ou émeut l'écho de son supplice, c'est parce qu'il nous infecte et pollue nos narines tous les jours. Mais la vérité, c'est que Martinez et Zogo étaient un humus. Voilà.
On connaîtra, Polycarpe, on connaîtra un jour la vérité.
Je suis de tout cœur avec tout ce qui peut coopérer avec les forces de l'ordre pour que la vérité soit connue. Pourquoi ? Parce que moi, Polycarpe Atangana, comme bon nombre de Camerounais, je rêve d'un espoir de justice. Je rêve d'un espoir de justice et que dans cette justice, je souhaite que le premier Camerounais, à savoir Paul Biya du Cameroun, nous dise, ou du moins accélère les procédures d'enquête pour que nous ayons les vrais, je dis bien les vrais coupables de l'assassinat cruel de Martinez et Zogo. Je répète, je voudrais que nous, on nous présente les vrais coupables de l'assassinat de Martinez et Zogo. Il ne sera pas question qu'on vienne nous présenter deux ou trois Tintins sous prétexte sont qui ont tué Martinez et Zogo.
Bon, il y a beaucoup d'auditeurs. Merci à vous, Polycarpe, donc Atangana. Je découvre votre nom de famille en direct, comme tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Il y a des journalistes qui nous ont contactés. Certains sont pigistes, d'autres s'occupent de publier des articles sur Facebook. Djibril, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour aux auditeurs de RFI à travers le monde et particulièrement en Afrique.
Journaliste depuis 14 ans et très touché, choqué par la mort de Martinez.
Je suis pigiste qui officie pour plusieurs organes de presse au Cameroun. C'est justement Juan Gomez, Martinez Zogo, la simple vocation de son nom suscite un choc psychologique, surtout pour nous jeunes journalistes. Assassiné de manière la plus lâche, ignoble, abjecte et barbare, même son corps sans vie a été humilié tel que nous avons vu. Nul ne mérite cela et plus jamais ça. Croyez-moi, Juan, la mort de Martinez a fait et continue de faire une très mauvaise publicité de notre pays, le Cameroun, dans le monde. Pour nous, Camerounais, elle apparaît comme une brèche, mieux, un fragment pour notre unité nationale, tant souhaitée par l'ensemble du peuple camerounais. Dans cette circonstance douloureuse, je rends un vibrant hommage à cet illustre disparu, à sa famille, ses collègues, ses amis, les fans de son émission Embouteillage. J'adresse mes condoléances et toute ma compassion à l'endroit de tout ce monde éploré à jamais. Au-delà de tout ce qui est dit et continue d'être dit sur cette atrocité, il faut maintenant agir en menant des actions plus fortes. Vivement que la lumière soit faite sur cette affaire pour que justice soit rendue pour la mémoire de Martinez Zogo. Par ailleurs, Juan, j'exhorte les syndicats et autres associations des journalistes et des médias en Afrique et même dans le monde de se réunir pour décerner de manière pérenne et constante chaque année un prix au nom de Martinez Zogo et aussi de Norbert Zongo, journaliste assassiné aussi dans des conditions troubles au Burkina Faso le 13 décembre 1982.
Et on a une pensée pour tous les journalistes tués à travers le monde, bien évidemment. Merci infiniment. On pourrait passer la matinée à vous donner la parole après l'assassinat de notre confrère Martinez Zogo. Vous pouvez évidemment continuer à réagir sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité et débattre entre vous. Des réactions maintenant concernant Aminata Touré. L'ancienne première ministre du Sénégal a été déchue de son poste de députée. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni en urgence cette semaine et 10 membres de ce bureau ont voté pour sa déchéance. Bonjour Awa.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar.
Bonjour à tous vos auditeurs.
Merci, oui, oui. Merci à vous. Aminata Touré s'est adressée hier devant les journalistes. Elle a non seulement dénoncé une décision illégale, mais elle a parlé d'une forfaiture commandée par le président Macky Sall. Et vous souhaitiez justement réagir aux propos d'Aminata Touré d'hier.
En fait, quand votre recherchiste m'a appelé, c'était avant que Mme Aminata Touré ne sorte dans les médias hier. Et je m'étonnais que du point de vue de son niveau, de sa trajectoire, de sa formation académique, parce qu'elle est docteur, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'elle ait démissionné et qu'elle ait prêté le flanc qu'on l'expulse de l'Assemblée? Mais apparemment, elle dit qu'elle n'a pas démissionné.
C'est ce qu'elle a dit
donc,
hier.
Ça pose... Elle l'a dit hier, voilà. Et ça pose problème. Je pense que si la majorité, la majorité doit démontrer qu'elle a démissionné, parce que c'est par une lettre de démission reçue par le président qu'on atteste qu'elle a démissionné. Sinon, ça pose problème. Et moi, je trouve que c'est dommage quand même, parce que Mme Aminata Touré, c'est une des figures féminines politiques quand même au niveau du Sénégal, qui a toute une longue trajectoire politique. Et ça amenuise le nombre de femmes et de femmes valables à l'Assemblée quand même.
Après, reste à savoir si elle a vraiment démissionné ou pas. Elle, elle affirme n'avoir jamais rédigé une lettre de démission. Mais si elle a démissionné, la Constitution est claire. Hein. Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Bonjour Samba.
Bonjour.
Hambour, également au Sénégal. Que vous inspire cette affaire, Aminata Touré, et sa déchéance ?
La déchéance m'inspire tout simplement que le président veut écarter Aminata Touré de la course à la présidence. Vous savez, en Afrique, il y a eu peut-être trois présidentes, Johnson Sirleaf et une Tanzanienne. Mais une troisième, il n'y en aura pas, parce que les marabouts déjà sont au pouvoir au Sénégal. Ce sont les marabouts qui dirigent le Sénégal.
Et donc, vous pensez qu'il y a une volonté d'écarter Aminata Touré de la prochaine élection présidentielle ? En même temps, est-ce qu'elle pouvait... Parce que là, c'est la majorité, entre autres, essentiellement la majorité, qui a voté sa déchéance. C'est une majorité qu'elle ne cesse de critiquer depuis quelques mois, tout de même, Samba.
Mais de toutes les façons, majorité ou pas, c'est le président de la République, Macky Sall, qui dirige ce pays, vous comprenez,
hein? Il est président.
Il est président, il a les moyens financiers pour barrer la route à Aminata Touré. Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, Macky Sall, ce qu'il a à faire, c'est de dissoudre l'Assemblée pour un troisième mandat, dissoudre l'Assemblée et appeler à des élections anticipées. C'est la seule solution, je crois, qu'il a dans sa botte.
Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, excusez-moi, je ne suis pas un fin expert de la politique sénégalaise, mais le fait qu'Aminata Touré soit déchue, ce sera donc sa suppléante qui va la remplacer. Et une fois que ce sera officiel, la majorité va retrouver sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc quel intérêt, à ce moment-là, pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée et de convoquer des élections anticipées ?
Je vous dis, pour éviter... Tout le monde sait que Macky Sall a deux mandats. Donc, pour détourner tout cela, il va dissoudre l'Assemblée. C'est moi qui vous le dis.
Bon, écoutez, vous l'avez dit. Je l'ai entendu. Je prends note et on verra si ce scénario se réalise. En tout cas, merci infiniment, Samba, de cette analyse. Bonne journée à Hambourg. Merci à Awa, à Dakar. On va parler, puisque vous avez été nombreux tout au long de la semaine, d'ailleurs, à nous envoyer des messages sur WhatsApp, Facebook et à nous appeler au standard après la décision des autorités du Burkina Faso de mettre fin à l'accord qui permet aux soldats français d'être présents dans le pays. Les 400 éléments des forces spéciales ont un mois pour quitter le Burkina Faso. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, comment vous allez ?
Bah écoutez, ravi de débattre avec vous, Emmanuel, sur cette thématique qui, je ne le cache pas, fait beaucoup réagir sur notre page Facebook. Emmanuel, vous comprenez, vous saluez la décision prise par les autorités du Burkina Faso ?
Ce que moi je salue, c'est plus l'ambiguïté dans laquelle on était. On vient de sortir de cette ambiguïté, parce que depuis le président Traoré, on était dans une situation où on ne communiquait pas, on ne disait pas exactement à la population ce qu'il en était exactement. Mais là au moins, Ibrahim Traoré a dit quelque chose, il a fait quelque chose qui est clair. Nous allons nous battre nous-mêmes. Ça évite ce qu'on a vu ces dernières semaines, les manifestations souvent nourries par aux fake news, les réseaux sociaux qui chauffent et tout ça. Donc,
vous faites référence, Emmanuel, vous faites référence aux manifestations, on va dire un peu anti-françaises, à Ouagadougou notamment ?
Oui, oui, je parle oui. Des manifestations anti-françaises parce que, en fait, le carburant de ces manifestations-là n'ont pas toujours été nourri. C'était nourri aux fake news en réalité. Voilà, on n'a pas dit aux gens, parce que la question qui revient souvent, c'est pourquoi les Français sont là et la situation empire. Mais ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'a pas dit, c'est que nos autorités, depuis le président Kabore, n'a pas utilisé ces forces spéciales, là, sabre.
Oui, donc vous dites que, j'entends, bah, les forces spéciales sabres, elles sont sur place. Après, vous dites que peut-être que le Burkina Faso n'a pas su les exploiter, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais à leur juste valeur. En quoi le départ des soldats français peut être une bonne chose, Emmanuel ?
Parce que là, maintenant, on est face à nos propres responsabilités. On n'a plus personne à accuser, voilà. Donc ça, c'est très important parce que les semaines à venir, on va observer un peu sur le terrain comment les choses se passent. Et là, il n'y a plus personne à accuser. Oui. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de très bien. On n'aura plus à manifester.
Ça veut dire qu'il n'y aura plus de bouc émissaire.
Pardon ?
Il n'y aura plus de bouc émissaire.
Voilà. On n'aura plus de bouc émissaire. Bon. Et ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. On est face à nous-mêmes, on reste nos propres responsabilités.
Les Burkinabés doivent être les acteurs premiers de la reconquête du territoire. Voilà ce qu'a dit cette semaine le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo. Alexandre souhaite également commenter cette décision. Bonjour Alexandre.
Bonjour Monsieur Wang.
Alors vous n'êtes pas au Burkina Faso, vous êtes à Niamey, mais je tiens à dire que beaucoup d'auditeurs de la sous-région suivent de très près cette décision des autorités du Burkina Faso. Vous dites également que c'est une bonne chose le départ des forces spéciales françaises.
Absolument. Je trouve que c'est une très bonne chose. Je pense que la sécurité d'un État fait partie de sa souveraineté et on ne troque pas la souveraineté d'un État. Il appartient vraiment aux autorités burkinabées de prendre en charge la sécurité de leur pays. Maintenant, c'est à eux maintenant de tracer les contours des coopérations dont ils ont besoin pour assurer cette sécurité. Mais c'est eux d'abord, c'est au Burkina Faso d'abord qu'il appartient d'organiser sa sécurité.
Avec du matériel militaire offert par les pays amis. C'est en tout cas ce que réclamait le porte-parole du gouvernement. Il dit attendre des pays amis du matériel pour aider les Burkinabés à reconquérir le territoire.
Absolument. Si les pays amis, d'où qu'ils viennent, tant qu'ils ont une bonne intention et qu'il y a une coopération bien tracée, tout est bien. Aujourd'hui, la sécurité, c'est une affaire de gros sous, de moyens suffisamment importants. Et nos États sont tels que nous sommes vulnérables et tout est urgence. Donc là, s'il y a des États qui ont la possibilité d'apporter un concours en armement, un concours en financement, qui puisse permettre à l'État d'organiser sa sécurité, je crois que c'est une très bonne chose.
Et peu importe,
maintenant, c'est au Burkina de définir.
Et peu importe le pays, et peu importe les nouveaux partenaires.
Vous savez, M. Rouen, quand on est malade, on prend le médicament qui vient. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le Burkina est malade, le Burkina a besoin de se soigner. D'où vient le médicament ? Tant que ce médicament est censé apporter vraiment la réponse au mal dont on souffre, je pense qu'il est prenable.
Bon, écoutez, Alexandre, en tout cas, ça ne vous a pas échappé qu'une partie des 400 éléments de la force sabre devrait rejoindre votre pays, le Niger. J'aurais bien voulu vous entendre sur ce point-là, mais on est obligé de rendre l'antenne. C'est la règle, c'est la loi, c'est comme ça. On rend l'antenne pile à l'heure pour permettre à Caroline Paré et son magazine Priorité Santé de commencer. Caroline Paré qui s'intéresse aujourd'hui à la peau. Comment prendre soin de sa peau ? Je vous souhaite de passer à toutes et à tous une excellente fin de semaine à l'écoute des RFI. Prenez soin de vous. Lundi, on sera de retour évidemment avec vos questions à la rédaction et on parlera du voyage du pape. François doit arriver mardi à Kinshasa. Qu'attendez-vous de ce déplacement ? Très bonne journée à tous.
À Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.